Merci pour ce dernier chant. Comme j'ai toujours la gorge un petit peu prise, ma femme m'a dit « économise-toi ». Mais après, j'ai donc fait du playback, je l'avoue. Mais après, j'ai vu que c'était mon cœur qui chantait. Donc j'ai pas mal au cœur, j'ai juste pas la gorge un petit peu. J'aimerais ce matin lire avec vous deux courts textes, très différents les uns des autres, l'un de l'autre. Ils mettent tous les deux en scène Jésus-Christ, mais dans des situations qui semblent n'avoir rien en commun. Pourtant, si nous regardons de plus près, nous nous apercevons qu'en fait, il s'agit de situations presque similaires et qui apportent le même enseignement de la part de Jésus-Christ. Ces deux textes qu'on va trouver dans l'évangile de Marc, Marc 2 et Marc 3. Alors voilà le premier texte. Marc, Matthieu, excusez-moi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, je suis même plus sûr si c'est Matthieu ou si c'est Marc, du coup. C'est pas grave, vous chercherez. Non, c'est Marc, mais peut-être c'est mon texte qui n'est pas juste. C'est pas grave. C'est bien Marc. Je vais lire ici, ça sera plus simple. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont les employés des impôts et des pêcheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pêcheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs ? Mais pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et leur dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. » Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se croient pécheurs. Premier texte. Deuxième texte. On est toujours dans Marc, comme vous voyez. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Jésus dit à cet homme qui a la main paralysée, « Lève-toi ici, devant tout le monde. » Ensuite, il dit à ceux qui sont là, « Le jour du sabbat, est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal, de sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir ?» Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière, aussitôt ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Deux textes curieux, deux textes qui nous parlent de moments précis, deux situations différentes, mais on va le voir, un seul et un même enseignement. Tu peux enlever le texte, Clément. Regardons les contextes. Et tout d'abord, les lieux où se déroulent ces deux scènes. La première a lieu dans une maison privée, la maison du péager, la maison du douanier. Nous, ça nous parle, quoique maintenant, il n'y a plus beaucoup de douaniers, hein, mais c'est la maison du douanier. En pensant à ce texte, j'ai pensé qu'il y a peu de temps, j'ai un douanier qui a mangé à la maison. Il était à la retraite, mais enfin bon, c'était quand même un douanier. Il a mangé à la maison. Je me suis senti un peu interpellé par le texte après. C'était super sympa. Donc une maison privée. Le deuxième texte a lieu dans une maison aussi bien particulière, dans la maison de Dieu pour l'époque. Le lieu où se retrouvent les croyants, les juifs, la synagogue. Mais c'est aussi une maison avec quatre murs et un toit. Quelles sont les anecdotes que Marc nous rapporte dans ces deux textes? Le premier texte nous relate ce repas duquel on ne sait pas grand-chose en fait, sinon qu'il rassemble des gens, semble-t-il, peu recommandables, des douaniers. Bon. Et Jésus... Et donc ce repas. Et puis il y a la réaction des chefs religieux qui sont là, un petit peu à l'écart et qui guettent. L'autre texte nous parle de la rencontre entre un homme handicapé, visiblement, et le Christ. Et de nouveau, la réaction des chefs religieux de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire des personnages qu'il y a dans ces deux textes, si on regarde un petit peu comment ils sont faits? D'abord, il y a le Christ. Il est dans ces deux textes, omniprésent. Il est posé, j'avais marqué calme, mais on voit dans un texte qu'il n'est pas calme, qu'il est un petit peu fâché. Enfin, il est là et il réfléchit à ce qui se passe. Mais vous l'avez remarqué, ce n'est pas lui qui est au centre de ces anecdotes. Il semble plutôt au-dessus, un petit peu inaccessible. Ensuite, il y a dans ces textes, on va dire, l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas contents. C'est un peu les bonnets rouges de l'époque. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui vont ici critiquer, grogner, qui sont jaloux, aigris, orgueilleux, on va dire qu'ils sont humains, simplement. Ces hommes sont extérieurs à ce qui se passe. Ils ne sont pas concernés, en fait. Mais ils vont juger et condamner sans réfléchir, ni chercher à comprendre, d'une façon radicale, aveugle et totalement hors sujet, en fait. Ce sont, nous est-il dit, les pharisiens. Vous savez que le nom pharisien signifie les séparés. Les séparés. On pourrait aujourd'hui définir les pharisiens comme une sorte de, plutôt de secte, hein, une secte religieuse juive, extrémiste. Mais bien qu'extrémiste, elle va demeurer très très influente, car elle est tout à fait pointilleuse sur la façon dont on doit obéir à la loi. Elle met des règles très précises. Tout aussi claire est leur attitude de rejet de ceux qui ne sont pas juifs, de ceux qui ne pensent pas comme eux, des païens donc, de tous ceux qui ne sont pas des leurs. On peut dire aisément que les pharisiens, en dehors de ceux de leur propre camp religieux, n'aiment aucun autre, mais critiquent tout le monde et luttent pour leur souveraineté nationale, politique, religieuse. Ils veulent être ceux qui décident, et cela aussi contre l'envahisseur, contre les Romains. C'est eux qui veulent avoir le pouvoir. Et puis il nous est dit, vous avez vu le dernier verset qu'on a lu, il y a aussi les Hérodiens, ceux du parti d'Hérode. Ce parti, plus politique que religieux, est pourtant aussi un parti en opposition avec les pharisiens. Mais ils veulent aussi, et c'est là qu'ils se rejoignent, ils veulent aussi politiquement la souveraineté nationale, c'est eux en soutenant le roi qui a été mis en place par Rome. Mais pourtant ils vont ici, à deux, ces deux partis, former une opposition soudée, en quelque sorte une alliance de circonstances, vous savez, de celles qu'on fait pour les élections, juste pour un moment. Également, cette alliance animée par un but précis et révélé dans ces textes, l'élimination de Jésus. Le décor placé reste l'intrigue, l'enjeu qui se trouve réellement au centre de ces débats. D'une part, ce repas partagé entre Jésus-Christ et les autres, avec tout le symbolisme dans cette anecdote, qui d'ailleurs, à nos yeux, n'a rien d'extraordinaire, manger avec un douanier. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas, hein. Ça ne nous pose pas de problème. Manger plus loin, manger avec des pêcheurs. Est-ce que ça nous parle, nous, aujourd'hui aussi? Et d'autre part, dans le deuxième texte, l'autre texte, la guérison de cet homme le jour du sabbat. C'est le samedi, prenons le dimanche pour nous. La guérison le dimanche. Et la question qu'en fait Jésus-Christ va poser lui-même aux pharisiens, est-il permis? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Avec le même symbole qu'apporte cette anecdote dans la vie de la Palestine au 1er siècle, pour nous, 20 siècles plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-il permis? Dans ces deux situations, le Christ va enseigner la même chose sur la loi et sur la foi. Ce qu'est en fait la vie avec Dieu. Toujours cet équilibre entre la loi et la foi, entre ce qui est écrit et ce que je dois comprendre de l'Écriture. Avec la même question, est-il permis de ? C'est une question qui fâche, qui a toujours fâché. C'est une question qui ici fâche. Réfléchissons à cette question. Bien sûr, nous l'avons lu, c'est un piège tendu à Jésus-Christ. Les pharisiens pensent pouvoir le mettre quelque part en porte-à-faux pour le faire chuter et pouvoir le dénoncer en justice pour qu'il soit condamné et pour qu'il soit exécuté. Dans la tête des pharisiens, il n'y a jamais de doute. C'est il va être coupable, il va être condamné à mort, il va être exécuté. C'est toujours leur plan et c'est toujours leur chemin. Mais leur stratagème, non seulement là, ne va pas fonctionner, mais il va se retourner un peu contre ses détracteurs. Dans le premier texte, c'est le comportement même du Christ qui est en cause. Les pharisiens ont ainsi érigé en norme que les péagers, les douaniers, les pêcheurs n'étaient pas fréquentables. Point. C'est pour eux la norme universelle pour tous. Et ils montrent le Christ du doigt juste parce qu'il partage le repas avec eux. Juste pour ça. En fait, ils ne conçoivent pas que le Christ ne suive pas cette norme, celle qu'ils ont fixée eux-mêmes en s'appuyant d'une façon tout aussi aveugle sur la loi établie. Il n'est pas concevable que nous puissions, nous, nous mélanger à ces gens-là. Et à leur tour, ils jugent et ils accusent son attitude à lui, le Christ, son attitude mérite une seule sanction, la mort. J'ai envie de dire, rien que ça. Petite cause, grands effets. Rien que ça. Simplement le fait qu'il est allé manger avec un douanier. L'autre texte pose une question vitale. Je pèse le mot vital. Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? On ne devait rien faire du tout ce jour-là. Pierre, de son retour, Pierre, pas Pierre là, mais Pierre ici, de son retour d'Israël, me disait « C'est incroyable comme le jour du sabbat, on ne doit rien faire, même les ascenseurs dans l'hôtel sont automatiques pour qu'on ne soit pas obligé d'appuyer sur le bouton. » On ne doit rien faire le jour du sabbat. Bon. Et l'application de la loi va donc jusque-là, ne pas avoir à appuyer sur le bouton de l'ascenseur. La question du Christ est donc, est-ce que je peux faire du bien sans être en contradiction avec la loi ? Est-ce que ce jour-là, précisément, je peux faire du bien sans être en contradiction avec la loi ? Vous ne trouvez pas qu'ici la loi, elle a bon dos ? Elle a bon dos ? Elle a bon dos pour juger l'autre ? Il s'agit en fait de réfléchir à l'application de la loi et de la foi dans chaque acte de notre propre vie. Nous pourrions facilement donner la réponse en écoutant l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens où il dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Après, il faut le remettre dans le contexte, avec ce contexte-là. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Alors d'abord, les pharisiens ne connaissaient pas ce texte. Il n'était pas écrit encore. Et ensuite, Jésus va directement beaucoup plus loin dans sa réflexion, dans sa compréhension de cette loi. Non seulement il laisse entendre que ce n'est pas illégal, hein, contraire à la loi, mais il dit en quelque sorte, il le faut, c'est indispensable. Jésus contre ainsi à l'avance, par un acte de vie et de bonté, par un engagement de foi, une question qui n'avait aucune autre motivation que celle de le faire tomber et de trouver quelques raisons de le dénoncer aux autorités. La loi avait quelque sorte été retournée à l'envers, comme une chaussette, à l'envers pour faire tomber le Christ. Cette question avait un seul but et un seul, le faire condamner. Et nous touchons là visiblement au dérapage qu'est l'extrémisme, quel qu'il soit. Là donc, on est dans l'extrémisme religieux. L'amour du prochain est ici volontairement exclu de la pensée sous le couvert de la toute-puissance de la loi. Et surtout, de son obéissance de son observation plutôt, aveugle et totalement stérile, mécanique, dénué de toute réflexion de base et de tout sentiment humain. Cette façon de réagir qui nous est proposée dans ce texte, c'est maltraiter et détourner à son profit seul la loi de Dieu. Cette loi qui n'est pas punitive mais éducative, qui n'est pas rejet mais accueil. Elle porte en elle, cette loi, la réflexion nécessaire à la vie, l'intelligence avec laquelle Dieu nous propose de nous équiper. Et Dieu ne nous propose pas de gober tout ce qu'on nous dit comme ça, sans réfléchir, non. 1 Corinthiens 10, verset 15, « Je parle là comme à des gens raisonnables. J'en appelle donc à votre intelligence. » Alors, posons-nous les vraies questions quant à nos comportements de vie vis-à-vis de nos prochains, de nos frères, de ceux que nous croisons sur nos chemins. Quel est le tréfonds, le profond de nos questions ou de nos remarques à leur égard lorsque nous nous exprimons? Quelle est la motivation réelle que nous avons au-dedans de nous? Où est l'amour du prochain réel lors de mon contact ou de mon intervention ou de mon dialogue avec lui? Cette main paralysée de cet homme, elle serait donc potentiellement guérie ou guérissable tous les jours, sauf le jour réservé à Dieu? Moi, ça me choque, vraiment. Il s'agissait, semble-t-il, d'une urgence vitale. Dans la réflexion actuelle de notre société sur le fait d'ouvrir tous les commerces 24 heures sur 24, tous les jours, j'avais marqué les commerces futiles, parce que peut-être ils ne me correspondent pas, mais tous ces commerces ont dit « c'est indispensable qu'ils soient ouverts », les commerces de bricolage, les commerces de musique, Virgin et autres trucs comme ça. Tous ces commerces qu'on veut ouvrir tous les jours, du matin au soir jusqu'à minuit, est-ce que nous comprendrions actuellement qu'ils soient ouverts, mais que les urgences des hôpitaux soient fermées parce que c'est dimanche? Mais on en est là dans notre société, dans cette réflexion. Et ce texte, il pose cette question-là. Et il va plus loin parce qu'il nous pose la question de « est-ce qu'il est permis de ?» Le Christ ira encore plus loin en leur signifiant, en quelque sorte, vous qui vous considérez comme juste. Et là, il nous interpelle aussi, pur et sans reproche. Ce n'est pas pour vous que je suis venu. Vous ne m'intéressez pas plus que ça. Allez et apprenez ce que signifient ces paroles. C'est le texte qui le dit. Il les laisse à leur idéal, à leur refus, j'ai presque envie de dire à leur haine, et leur rappelle qu'ils sont éloignés de Dieu. Eux qui pensent justement à cette exclusion. Dans ces deux cas, Jésus-Christ sait, pressent le piège et a des mots dits ou pensés tellement forts. Il répond par des actes clairs et efficaces et nous remet devant une question primordiale de notre vie. En fait, qui dans ce monde serait suffisamment hors norme, abject, mauvais, pécheur, pour se trouver en fin de compte totalement hors d'atteinte de l'amour de Dieu, juste parce que c'est le jour de Dieu? En plus, alors qu'est-ce que ces textes nous enseignent en fait réellement? Ces textes nous donnent une explication claire sur notre vie et j'aimerais la résumer en trois points très simples. La mission de Jésus-Christ dans la parole qui nous expliquait, la mission des hommes, et puis ma place à moi, personnellement, dans tout cela. Dans le livre d'Osée, du prophète Osée, au chapitre 6, au verset 6, il nous est dit, parlant du Christ, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est une indication que le Christ nous donne pour notre vie. La question qu'il va poser ici, le Christ, est d'une grande pertinence et d'une grande force. S'il n'est pas permis de faire du bien, et là faisons abstraction du jour du sabbat, du samedi ou du dimanche, s'il n'est pas permis de faire du bien, physique ou moral ou spirituel, du bien simplement avec un grand B, le jour du sabbat, il faut bien être conscient que ce refus laisse simplement la place au mal d'agir. Ou encore plus crûment, et on le voit dans ce texte avec les mots qui sont employés, sauver une vie ou ne pas le faire, simplement parce que c'est le jour du sabbat, mais c'est en quelque sorte non-assistance à personne en danger. C'est donner la mort, c'est donner la mort, simplement. Alors j'extrapole un peu avec cet homme qui avait cette main paralysée, c'est vrai. Mais telle est la conséquence immorale que Jésus voit dans l'interprétation servile et hypocrite que les pharisiens, eux, donnaient à l'institution du jour du repos. La loi elle-même ordonne de sanctifier ce jour, de le mettre de côté. Mais comment aussi peut-on le faire mieux qu'en répandant sur des êtres souffrants le secours, les consolations, la grâce que Dieu leur destine dans son amour? Et nous pouvons peut-être voir dans cette intervention de Jésus quelque chose de plus direct envers les pharisiens, les hérodiens, au travers de termes énergiques qu'il emploie. Faire du mal le jour du sabbat. Qui de Jésus, ou d'eux-mêmes, vous l'avez lu dans le texte, qui de Jésus ou d'eux-mêmes avait en ce jour de sabbat, au fond du cœur, des pensées criminelles? Les adversaires de Jésus, dans ce jour qui était le jour sanctifié, le jour saint, ne songeaient qu'à l'accuser et à le faire périr. Et dans Jacques, dans le livre de Jacques, on lit au verset 17 du chapitre 4, « Celui donc qui sait ce qui est bien, on a le même mot ici, qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Là, on est hors jour. C'est une loi éternelle. Les pharisiens ne peuvent répondre, tellement ils sont à cet instant interloqués, mais aussi profondément irrités. Et le Christ leur dit, vous avez vu ces paroles, allez, allez, sortez d'ici, n'est pas votre place, apprenez, c'est pourtant leur maison, c'est la synagogue, apprenez que la miséricorde est la chose la plus importante dans les relations entre les créatures que Dieu a mis ensemble sur la terre. En un même moment et en un même lieu. Les justes, ou du moins ceux qui se prétendent ainsi, sont comparés ici aux gens en bonne santé, ceux qui se croient en bonne santé, alors que les malades désignent les pécheurs. Les pharisiens, dans leur orgueil et leur propre justice, se croyaient justes et en bonne santé. Ils n'avaient donc pas besoin de médecins, pas besoin de sauveurs qui venaient guérir leurs âmes de leur maladie morale. Mais ceux qui se portent mal, ceux qui se sentent malades, les pécheurs qui l'entouraient à ce moment précis, eux avaient besoin du Christ. C'est pourquoi ils l'écoutaient avec bonheur parler du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Les pharisiens pensaient que tout leur était acquis simplement. Et Jésus ne les exclut pas de son royaume. Il leur fait simplement savoir qu'il ne pourra les y accueillir tant qu'ils persisteront dans leur orgueil. Et que le sentiment douloureux du péché, symbolisé ici par les malades, est sans conteste la porte de ce royaume céleste auquel Jésus-Christ veut les appeler, les uns et les autres. Quelle est la mission des hommes? Mais la mission des hommes n'est pas forcément d'être malades. Le fait d'être considéré ici comme malade et le fait d'avoir ressenti en nous ce sentiment de péché et ainsi d'avoir confiance totale, foi en ce divin médecin envoyé par Dieu. Dieu ne veut pas forcément que nous soyons malades, il veut que nous ayons cette conscience de notre péché. ce douanier, rejeté par les Juifs, comme on l'a vu, l'avait bien compris. Il l'avait bien compris. Et il le vivait dans cette histoire où Jésus vient manger chez lui. On a vu, il abandonna aussitôt ses travaux, ses avantages terrestres, pour suivre Jésus. Suivre son Sauveur, suivre son Seigneur. Il se trouve qu'il possédait une maison et des biens. Les mauvaises langues diront, bah oui, c'est parce qu'il était douanier. Bien sûr, les mauvaises langues diront. Bon, est-ce que le Christ l'a dit ? Non. Mais dans sa logique, cet homme a voulu aussi faire profiter de sa maison au Christ. Et qui l'a invité ? Ceux qui connaissaient le mieux et qui étaient aussi inconsidérés que lui, les autres douaniers. Pourquoi ? Pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Et c'est ça que les responsables juifs vont combattre. Pour qu'ils soient aussi au bénéfice de cette parole puissante qui venait de décider de toute sa vie. Lévi voulait être, voulait vivre, voulait construire avec Jésus-Christ selon le plan qu'il avait compris de Dieu. Notre mission n'est pas de faire régner ou d'imposer notre justice ou nos idées. Qui suis-je pour posséder ou imposer le droit, mon droit? Si je suis justifié par Dieu, c'est par sa grâce et devant ses yeux, mais il ne m'a pas nommé juge de mes frères pour autant. Tous les attributs de la domination de l'homme qui symbolisent tout à fait notre société, la force, le non-respect d'autrui, la puissance, mettez-y ce que vous voulez derrière, de l'argent, du travail, de la politique, mettez tout ce que vous voulez derrière, de l'influence, de l'orgueil, du mensonge. Toutes ces choses sont aux yeux de Dieu des maladies. Des maladies. Ces personnes sont considérées comme des malades ayant besoin de lui et ne peuvent qu'éloigner de Dieu. L'homme, dans toute sa suprématie, sa force, est exempt de miséricorde, celle-là même que Dieu affectionne particulièrement de voir régner dans le cœur du malade, du péché repenti. La foi en Christ, le Sauveur et le Seigneur, et les actes de la vie qui en découlent, sont emplis de l'amour du prochain. Voilà ce qui est non seulement permis, y compris le jour du sabbat, mais encore utile, souhaité, vivement recommandé, encouragé par ces deux textes. Alors, quelle est ma place à moi personnellement dans la société ? Notre place à chacun individuellement, pas la place de notre voisin, que justement on va montrer du doigt en disant « Tiens, c'est pas terrible ». Non, notre place à nous à ce moment. Alors j'aimerais vous laisser pour réponse deux questions. Toute simple. La main paralysée de cet homme ne symbolise-t-elle pas l'humanité tout entière, c'est-à-dire tous les hommes, et chacun en particulier en commençant par moi-même. Par nature, mes mains sont sèches, flétries, et je suis incapable de faire le bien par moi-même. Seul Christ, par la puissance de sa grâce, me guérit. Il guérit la main sèche en mettant la vie dans l'âme de cet homme qui est en fait morte et travaille en nous à la fois ce qui est la volonté et ce qui est le faire. Car dans l'autorisation de faire du bien ce jour particulier dont on parle ici, il y a la promesse de la grâce donnée par sa parole pour toujours. Assister le malade, vous avez compris ce qu'on met derrière le malade maintenant, assister le malade, soulager le pécheur, aider celui qui est dans le besoin, c'est cela aussi faire le bien, avec amour, avec charité, avec humilité, avec désintéressement, sans regard au calendrier. ne sommes-nous pas, simplement comme cet homme, incapables de faire le bien, sinon seulement avec la grâce et la miséricorde de Dieu, en nous rendant compte nous-mêmes, et on ne peut pas le faire avant, en nous rendant compte nous-mêmes de notre grand état de souffrance et de maladie devant Dieu. Alors peut-être il est temps que nous refaisions, que nous faisions individuellement un bilan de santé devant Dieu, une sorte de check-up spirituel, jour après jour. Alors c'est intéressant de le faire. Et puis deuxième question, dans mon regard vers l'autre, qu'est-ce qui est le plus fort ? Dans mon regard vers l'autre, même avant de lui adresser la parole, qu'est-ce qui est le plus fort ? Ce que moi je veux lui dire, c'est-à-dire mes propres idées, ou alors la conscience du sentiment profond de la miséricorde que Dieu a insufflée en moi, oui, mais spécialement aussi au-dedans de lui, celui qui est en face de moi, ce frère ou cette sœur. Et cette miséricorde qu'il a insufflée au-dedans de lui, il l'a insufflée aussi pour moi, dans le contact que j'ai avec lui. Matthieu 25, 45, alors Jésus leur répondra, amen, ça veut dire c'est la vérité, c'est vrai, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai pris volontairement la deuxième partie du verset. La première partie parle de ce que vous avez fait. Mais là, il nous prend à notre propre jeu, ce que vous n'avez pas fait. C'est-à-dire cette personne qu'on n'a pas secourue ou aidée, ou pas regardée simplement. Ce qu'on n'a pas fait, c'est au Christ qu'on n'a pas fait. La parole de Dieu est garantie de la vie. Et la vie est contenue tout entière dans l'amour de Dieu, révélé aux hommes, pour qu'ils le partagent entre eux, pour que nous le partagions entre nous, comme acte fondateur de notre vie en Christ, de la société que Dieu veut, de l'Église que Dieu veut. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pour ça qu'il est important de retrouver les traces de son chemin. Amen. Je vous invite à un petit temps de recueillement. Si quelqu'un veut prier pendant ce temps, qu'il le fasse tout à fait librement. Père, nous voulons te remercier pour la vie que tu as donnée, pour ton esprit que tu as répandu. Nous voulons te remercier pour ton accueil et tes réponses de tous les jours, quel que soit ce jour. Nous voulons aussi te remercier pour ces textes de loi que tu as donnés, pour ces directives pour notre vie. Et nous voulons ce matin, avec ces deux textes, de situations bien différentes, mais tellement proche, nous rappeler que tu nous as donné aussi une intelligence, une réflexion pour pouvoir vivre avec ce que tu donnes comme norme, simplement avec ton amour, Seigneur. Aide-nous à regarder ta parole avec le filtre de ton amour. Aide-nous à vivre avec cet amour et ce partage tous les jours de notre vie, Seigneur, en pensant que toi, tu es présent tous les jours. Aide-nous aussi à être présents tous les jours, comme des témoins, là où tu nous places, quelles que soient les circonstances. Nous voulons te remercier pour ces enseignements. Nous voulons te remercier pour la clarté de ton écriture. Et nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous laisses à méditer jour après jour. Aide-nous, Seigneur, à la lire, à la travailler, à y réfléchir, à y puiser source, force, joie, et puis liberté, Seigneur, et puis un bien-être total. Merci de nous accompagner jour après jour sur ce chemin. Amen. J'aimerais partager les annonces avec vous, si je les retrouve. Telles que, je pense, vous les lisez comme moi. Demain, lundi, commission travaux. Mardi, étude biblique des aînés, 14h30. Le soir, préparation du club d'été. Important, préparation du club d'été. C'est à 20h, merci. C'est à 20h. C'est chez vous, c'est ici ?
Non, c'est ici.
C'est ici. C'est trop petit chez vous. Alors voilà, vous avez compris. Très fort, c'est trop petit chez eux parce qu'ils attendent beaucoup de monde. Merci. Ceux qui ne venaient pas prier pour le club aussi pendant ce temps. Jeudi, la chorale, c'est aussi ici parce qu'on attend beaucoup de monde aussi. Samedi, le club d'enfants, on attend aussi beaucoup de monde et c'est aussi ici, décidément. Voilà. Il y a des papillons au fond pour le club d'enfants.
C'est à 10h.
C'est à 10h. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 9h. C'est pas moi qui ai mis sur le site les heures du club d'enfants. Désolé. Le groupe de jeunes, j'imagine, c'est à 20h.
Non,
bon, c'est pas moi qui ai mis non plus sur le site les heures du...
Le groupe de jeunes part en week-end ski. Ouais, le rendez-vous est vendredi à 19h30 sur le parking.
Donc si vous venez samedi à 20h, vous êtes trop tard. Hein. Alors, juste quand même, ce que vous voyez là, c'est copié directement des annonces sur le site. Donc voilà, donc chaque groupe met ses annonces sur le site. Voilà, donc si c'est pour une fois que ce n'est pas de ma faute, c'est super. Yes. Dimanche, notre culte est à 10h30. Ça, je sais. Merci. Ouli.
Samedi à 17h, on va inviter le groupe d'ado chez nous, mais on va envoyer des détails par email.
D'accord, mais ce n'était pas sur le site non plus.
C'est annoncé à groupe d'ado et les ados, ils vous connaissent.
Super, parfait. Merci. Vous voyez, c'est important chacun de pouvoir repartager ces choses-là. Alors, c'est tout pour cette semaine. Tout le monde a compris les horaires. Donc, vous ne tenez pas compte de ce qui est écrit, mais vous savez quand c'est. Voilà, c'est nickel comme ça. Mais c'est bien comme ça, on voit que vous suivez. C'est parfait. Une naissance cette semaine. On a quelqu'un qui est ici, qui est grand-papa depuis cette semaine. C'est Didier. Donc... Oui, alors Loredane est là aussi, elle est en bas, simplement, au travail en bas. Hein. Didier et Loredane sont grands-parents, voilà, voilà la naissance au foyer de Cyril et de Sabrina d'un petit Noam, mardi, tout va bien, Didier m'a dit il est très beau, mais ça on s'en doutait, voilà, enfin en tout cas on est super contents, vraiment se réjouir et vous, on va aussi prier pour que vous puissiez profiter vraiment de ce petit bonhomme. En tout cas, merci au Seigneur d'avoir accordé ce cadeau merveilleux. Voilà, c'était quelque chose de super chouette. On va se réjouir en tout cas. Et prier aussi pour Cyril et pour Sabrina, pour cette nouvelle vie qui commence à 3. Annonce de la librairie, le dépôt de Noël. Vous savez, toutes ces choses qui arrivent en dépôt-vente pour Noël repart cette semaine. Donc profitez, allez jeter un coup d'œil, profitez d'acheter encore. Dimanche prochain, ça ne sera plus là. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est le moment. Et puis j'ai deux personnes qui m'ont demandé de venir. Je demandais à Emmanuel de venir déjà, nous faire une annonce.
Bonjour. Comme Jean-Paul a essayé de vous embrouiller, je vais essayer d'éclaircir tout ça. Non, je plaisante. Vous avez bien compris qu'il y a deux clubs. Il y a un club qui s'appelle le club d'été, qui a lieu l'été pendant une semaine pour les enfants de 7 à 14 ans. Vous êtes absolument tous invités à venir mardi à 20h ici à l'église pour commencer à préparer ce club. Il n'y a pas d'âge, c'est ouvert pour les personnes de 15 à 95 ou même 105. On est obligé de d'élargir maintenant qu'on a des personnes...
Pour l'encadrement.
D'accord. Donc c'est on n'a pas besoin de gens qui veulent s'engager toute la semaine. Si vous avez une heure, deux heures, une demi-journée, que vous avez des idées, n'importe quoi, venez mardi. On va faire un débriefing du club 2013 et parler du club 2014. Maintenant, j'aimerais vous parler du club d'enfants, qui est un club qui a lieu pendant l'année, à peu près tous les deux mois, le samedi matin de 10h à midi, pour les enfants de 4 à 12 ans. Alors, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas une question piège. Dans la salle, quelles sont les personnes qui connaissent des enfants qui ont entre 4 et 13 ans qui ne viennent pas à l'église? Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, toutes les autres personnes qui ne connaissent pas des enfants de 4 à 12 ans, je pense qu'il faut un peu sortir de chez vous. À la limite, vous pouvez venir une fois au club pour rencontrer des enfants, vous verrez, c'est sympa. Pour tous les autres, j'ai un défi pour vous. Ce n'est pas un grand défi. C'est un défi de donner une invitation comme ça à un enfant, à un enfant que vous connaissez qui a entre 4 et 12 ans. Et honnêtement, ça peut être dans votre quartier, ça peut être un enfant d'amis, ça peut être... Vous connaissez tous, vous êtes juste timide, vous n'avez pas osé lever la main, tout le monde connaît un enfant qui a entre 4 et 13 ans. Et essayons, c'est un défi. Même nous, des fois, on se creuse la tête pour en trouver des nouveaux. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Et moi, je vous dis juste un. Et si vous n'osez pas le donner comme ça, n'hésitez pas, je l'ai même par email. Donc, si vous connaissez des parents qui ont un enfant de 4 à 12 ans, vous me demandez, je vous envoie l'email avec le flyer. Vous pouvez juste dire coucou, petite invitation si ça t'intéresse. Voilà, je pense que ça fait aussi partie de notre témoignage, parce que j'aimerais vous enlever quelque chose de la tête. Ce club d'enfants, ce n'est pas une activité d'un petit groupe de l'Église, c'est une activité d'Église. On a tous notre part à faire, et je sais qu'il y a certaines personnes, notamment les personnes âgées, qui sont très actives, notamment dans la prière pour tous ces clubs, et je veux vous remercier pour ça, parce que c'est aussi quelque chose de très très important. Bonne journée.
Bonjour. Alors, j'ai pas trop l'habitude de venir là pour parler de moi personnellement, mais bon, j'en profite. Je parle pas longtemps, je voulais juste vous annoncer en fait mon mariage prochain avec Philippe. Donc, voilà. Merci. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir lui parler, c'est le moment. Alors, pas tous aujourd'hui, pas tous en même temps, il va avoir peur. Mais voilà, donc je voulais vous annoncer qu'on est officiellement fiancés. Et puis bah, après, on vous donnera des infos pour le jour J. Pour l'instant, c'est encore en train de se préparer. Mais voilà. Merci.
Ils n'ont pas donné ni d'heure ni de date, comme ça, sûr d'être juste. Hein. Merci. On va se réjouir de votre engagement. On va prier pour vous aussi. Merci en tout cas. On en reprendra l'occasion d'en reparler encore. Voilà, je vous invite à vous lever. Il n'y a pas d'autre, non ? Pas autre chose. Alors, je vous invite à vous lever. Et puis, je vous lirai quelques versets qu'on trouve à la fin de l'épître de Jude, une toute petite épître. Et à la fin de l'épître de Jude, on trouve ces quelques versets. « Vous, bien-aimés, édifiez-vous, vous-même, sous votre très sainte foi, priez le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. À celui qui peut, vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tout le temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen.